Là-bas si j'y suis.
Là-bas si j'y suis.
C'est pas bientôt fini.
En direct de la fête de l'Huma.
On va évoquer, on va parler, on va essayer de, d'être bon là-dessus, sur un sujet par lequel on aurait dû commencer. La dernière fois qu'on a vu, qu'on a rencontré Noam Chomsky à Boston, c'était juste après l'élection de Trump. Et on lui a dit, alors c'est une grande date pour vous. Il a dit oui, oui, mais la grande date, c'est la réunion au Maroc sur le réchauffement. Et pour quelqu'un comme Noam Chomsky, la première préoccupation qui est la sienne, et c'est dans les textes récents et des interventions récentes qu'il a faites, c'est le réchauffement climatique. Voilà pourquoi on vous a demandé de venir tous les deux. On vous remercie beaucoup. Clémence Dubois, qui est chargée de campagne pour 350.org.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour. Et François Jemaine, que j'ai entendu, mais tout à fait incidemment, sur France Info, j'avoue, ils vous appellent à chaque fois qu'ils ont besoin d'un expert pour des précisions. J'ai trouvé que ce que vous disiez, vous avez réussi, dans des espaces de temps comme ça, extrêmement concis, à dire des choses que j'ai trouvées intéressantes. Mais là, vous allez avoir l'un et l'autre plus de temps pour nous expliquer, pour répondre à une question qui s'est évidemment posée avec les récents ouragans dans les Antilles, Irma et autres. C'est quel lien il peut exister entre ces ouragans et le réchauffement climatique. Alors pour les uns, non, ça n'a rien à voir, il y a toujours eu des ouragans, il y en aura toujours. Il y a ceux pour qui, évidemment, c'est le réchauffement climatique qui est à la base de ces ouragans, et d'autres qui disent, vous allez me préciser ça, que le réchauffement climatique accroît la puissance de ces ouragans. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc, on va commencer par François Jemaine, par exemple, pour nous donner quelques précisions, des explications là-dessus.
Ben, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation aujourd'hui à la fête de l'Huma. Il faut simplement se demander qu'est-ce qui provoque les ouragans. Les ouragans sont provoqués par la différence de température entre l'océan et l'atmosphère. Et donc, forcément, plus la température des océans va se réchauffer, plus cela risque de créer des ouragans à la fois de plus en plus fréquents et de plus en plus violent. Et donc, autant il est difficile d'attribuer un ouragan en particulier au changement climatique, autant on est sur une logique de tendance qui fait que plus les températures vont se réchauffer, plus les ouragans seront intenses et violents.
Oui, c'est-à-dire que ici, on n'a pas encore perçu les effets du réchauffement climatique, hein, physiquement.
On a souvent tendance à considérer les effets du changement climatique soit comme quelque chose de lointain qu'on parviendra encore à éviter, soit comme quelque chose de distant qui va toucher quelques pays en développement, quelques petites îles du Pacifique, mais qui finalement est assez loin de nous. Et c'est un gros problème dans la manière dont on va aborder la lutte contre le réchauffement climatique, c'est parce que cette lutte, au fond, doit être profondément altruiste. C'est-à-dire qu'il y a dans les effets du changement climatique quelque chose qui dépasse nos frontières à la fois géographiques, mais aussi générationnelles, puisqu'il y a un décalage d'environ 50 ans, l'espace de deux générations, entre les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons et les effets qu'elles produisent, ce qui veut dire que la génération qui sera la plus touchée, ça sera la génération de petits-enfants.
Clémence Dubois, vous êtes chargée de campagne pour 350.org. C'est quoi 350.org ?
Alors 350.org, c'est un mouvement international qui cherche à construire justement un contre-pouvoir citoyen face à l'industrie fossile. Et donc, pour ce faire, on essaie d'inspirer, d'organiser et de mobiliser à la fois les populations locales qui sont impactées et les populations, par exemple, comme ici à Paris, qui ont l'impression que ce problème est lointain. Mais je voulais juste rebondir sur la question que vous venez de poser. À mon sens, c'est assez symptomatique qu'on se demande encore aujourd'hui si les manifestations climatiques extrêmes qui se multiplient à une cadence qui est infernale sont ou non les effets du changement climatique. C'est symptomatique du climato-scepticisme qui a été financé à coups de millions et de milliards par l'industrie fossile depuis déjà des dizaines d'années. Et donc, par exemple, quand aux États-Unis on arrive avec un président qui est climato-sceptique, dont l'administration entière est climato-sceptique, c'est pas innocent, c'est juste qu'en fait, l'industrie fossile est l'industrie la plus puissante du monde à ce jour, et elle arrive justement elle est rentrée à la Maison Blanche.
Oui, les effets du réchauffement, il faut le rappeler. Ça n'a pas l'air de bien rentrer dans nos esprits, concerne déjà pas mal d'habitants de cette planète. Hein. On a des migrations dues aux guerres, on a des migrations économique, mais maintenant on a des migrations climatiques qui sont extrêmement préoccupantes. Je pense à ce mur donc, qu'on ignore assez souvent entre le Bangladesh et l'Inde, hein. Il y a un mur très difficile à franchir. L'Inde défend cette frontière.
C'est le plus long du monde, avec 3700 kilomètres.
3700 kilomètres. Or, le Bangladesh est déjà, comme on dit aujourd'hui, impacté par ce réchauffement climatique. C'est-à-dire que des populations doivent se déplacer, sont astreintes à se déplacer et sont coincées contre ce mur que l'Inde oppose. C'est un des cas, et il y en a beaucoup d'autres sur cette planète. Il faut le dire et le redire. Peut-être qu'à force, ça finira par...
Et effectivement, sur cette question des migrations, c'est évidemment un des impacts, une des dimensions humaines les plus évidentes du changement climatique. Chaque année, c'est 25 millions de personnes qui doivent se déplacer à cause de catastrophes qu'on appelle naturelles, mais dont beaucoup sont liées au réchauffement climatique. Ça veut dire qu'il y a, en moyenne, trois fois plus de gens qui se déplacent à cause des dégradations de leur environnement que de guerres, par exemple. Alors même qu'on est dans une période où le nombre de personnes déplacées à cause des guerres atteint des niveaux records.
Dans quelle région ?
Alors, essentiellement millions. En Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et du Sud-Est, et dans l'océan Pacifique et l'océan Indien.
Oui.
Et je dirais même très largement en Asie du Sud et du Sud-Est, parce que c'est la région la plus densément peuplée, et donc c'est là que se produisent l'essentiel des déplacements liés au dérèglement de l'environnement. Et souvent, on va avoir tendance à classer les gens en fonction de catégories. On va dire, d'un côté, on a les bons réfugiés politiques. De l'autre côté, on a les mauvais migrants économiques qu'on va pouvoir renvoyer chez eux comme si c'était des marchandises. Et puis, on a une troisième catégorie qui sont les migrants climatiques. En réalité, sur le terrain, les choses ne sont pas aussi séparées que cela. Et l'idée de mettre les gens dans des catégories en fonction de leur motif de migration a de moins en moins de sens aujourd'hui. Parce qu'il y a une imbrication de plus en plus profonde entre les motifs climatiques, politiques et économiques de la migration. Je prends juste un exemple. En Afrique, où vous avez la moitié de la population qui dépend directement de l'agriculture pour sa survie, ça veut dire que dès que vous avez une variation de la température ou de la pluviométrie, vous avez un impact sur les récoltes immédiat, et donc un impact sur les revenus des gens immédiat. Et les migrants économiques, comme on dit, qui arrivent en Europe aujourd'hui, ce sont aussi, dans une certaine mesure, des migrants climatiques, simplement parce que tous ces facteurs s'interpénètrent et s'influencent mutuellement.
Ce que vous dites, Clémence Dubois, c'est la puissance... Depuis longtemps, des lobbies qui font tout pour freiner la prise de conscience de ces réalités.
Oui, et d'ailleurs, juste pour rajouter, évidemment, les impacts sur l'agriculture, justement, c'est aussi des impacts qu'on voit dans le Nord. Alors évidemment, on a plus de résilience économique dans notre société, mais donc on l'a vu déjà en France, on le voit en Italie, là qui a connu sa pire sécheresse depuis 60 ans. Donc en fait, c'est pas si vrai de faire une distinction entre les impacts climatiques au Nord comme au Sud, même si évidemment ils sont beaucoup plus violents au Sud. Et pour la puissance de l'industrie fossile, bah écoutez, il y a un livre très intéressant qui a été écrit par Alain Deneau qui s'appelle De quoi Total est-elle la somme, et il montre bien comment cette
Deneau est un auteur québécois-canadien, c'est ça, hein ? Sur Total, qui a travaillé sur Total.
Oui, et il montre bien comment... Alors, il a écrit son livre avec plusieurs chapitres, dont chaque chapitre porte le nom comme « Coloniser, vassaliser, asservir, corrompre ». Et en fait, il montre bien comment ce type d'entreprise, bien évidemment, arrive à infiltrer, à avoir plus de poids au niveau des décisions politiques. Et c'est la raison pour laquelle nous, on pense à 350.org, que sans un mouvement citoyen qui s'oppose en fait au pouvoir de l'industrie fossile, eh bien, les gouvernements n'auront pas assez d'incitation à s'opposer à cette industrie.
Jusqu'où cette opposition ? Est-ce qu'il s'agit d'espérer qu'un jour les tigres mangent de la salade ? Est-ce qu'il faut négocier avec Total en leur disant « Soyez gentils maintenant, arrêtez d'être capitaliste ou faites-nous un capitaliste gentil, on va vous repeindre en vert, regardez-nous, on est venus, nous sommes des écolos, nous sommes venus avec notre pot de peinture, on va vous repeindre en vert », ce qui s'est fait pas mal. Il y a un garçon qui est au gouvernement actuel et qui est prêt à repeindre tout ça en vert. Ou bien est-ce qu'il faut, je pense à Naomi Klein par exemple, ou à certains autres, des projets plus radicaux?
Ben justement, alors nous, on a lancé une campagne qui s'appelle la campagne Zéro Fossile, donc Fossil Free à travers le monde. Et l'objectif de cette campagne, c'est justement de rompre le statu quo, puisque cette campagne appelle... En fait, c'est des groupes citoyens qui appellent leurs institutions à rompre leurs liens avec l'industrie fossile. Alors par institution, ça peut être les écoles, les mairies, les musées. Donc par exemple, là, il y a un groupe à Sciences Po qui s'appelle Sciences Po Zéro Fossile et qui demande à Sciences Po de rompre ses liens avec Total, puisqu'ils ont un partenariat. Et donc le but de ces campagnes, c'est de faire comprendre aux institutions qu'en fait, non, on ne peut pas travailler main dans la main avec cette industrie, puisque à l'heure actuelle, en raison de l'accord de Paris et des objectifs climatiques qui sont indispensables aujourd'hui, il faut renoncer à l'extractivisme, donc c'est-à-dire zéro projet d'infrastructure fossile. Or, Total, on le voit, continue à forer, à explorer toujours plus loin et développe toujours plus de projets fossiles et n'a clairement pas réorienté un tant soit peu leur entreprise vers les énergies renouvelables. Donc, quand ça l'arrange, Patrick Pouyanné, qui est le directeur de Total, va dire « Oui, nous avons fait une reconversion, nous tournons désormais vers le gaz naturel. » Donc, comme si le gaz naturel était une énergie verte. Et dans d'autres forums, il va réaffirmer que non, bah, Total reste une entreprise pétrolière et gazière. Donc, il faut absolument arrêter de tenir la main de ces entreprises et de leur permettre d'avoir à la fois une légitimité, puisque évidemment, quand par exemple Sciences Po a un partenariat avec Total, on estime que cette entreprise peut légitimement donner des cours ou voilà, peut avoir ses logos encore dans des plaquettes, etc. Alors que, en fait, c'est une industrie qui nous conduit droit dans le mur et qui bloque depuis des décennies les régulations climatiques et énergétiques. Parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire et depuis des années.
Donc, voilà. Votre démarche est anticapitaliste, elle ne peut pas être autre chose. Le ministre de l'Environnement en France, Nicolas Hulot, est très conciliant avec les entreprises dont vous parlez. Et il nous explique que, ah oui, mais c'est bien que Total finance ça ou ça, ou que ces entreprises prennent conscience et financent elles-mêmes la lutte contre les dégâts de l'environnement. Est-ce que on peut concilier ? Est-ce qu'on peut accepter ça ? Ou bien est-ce qu'il y a, comme dans... J'évoque... On peut même évoquer Hervé Kempf, que vous connaissez, qui dirige un site qui s'appelle Reporter, qui a écrit des bouquins très radicaux là-dessus. Pour lui, il y a vraiment, je ne sais pas s'il continue sur cette ligne-là, mais pendant un moment, c'était, au cœur de cette histoire-là, l'adversaire, c'est bel et bien le capitalisme. Alors le capitalisme, je sais bien que c'est vague, mais ou bien il y a cette radicalité, ou bien on compose.
Alors, vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut justement encore à nouveau accepter d'essayer d'engager, de faire de l'engagement avec ces entreprises, et particulièrement l'industrie fossile, pour parler du climat. Je vais donner juste un exemple. Par exemple, à l'OMS, quand on cherchait à s'attaquer au tabagisme, à un moment, il est devenu apparent, justement, par les mobilisations citoyennes, que, en fait, pour régler la question du tabac, on n'allait pas faire asseoir à la table des négociations Marlboro, Philip Morris et compagnie. Mais que justement, il devait sortir de cette table des négociations. Et de la même manière, il y a un groupe qui s'appelle Libérons le Louvre, qui demande au Louvre de cesser son partenariat avec Total. Dit, dans votre charte éthique, vous refusez d'avoir des cigarettiers ou des marchands d'armes, mais ça ne vous dérange pas d'avoir une plaque en lettres d'or à la gloire de Total dans une de vos galeries. Donc, est-ce que c'est radical ? Moi, je pense qu'il faut renverser la question. Ce qui est radical, c'est le déni climatique dans lequel se trouve l'industrie fossile et bien d'autres industries. Et donc, il faut arrêter de dire que les radicaux, ce sont ceux qui veulent un avenir durable et juste, donc libérer des énergies fossiles. Est-ce que c'est un projet anticapitaliste ? Bah, de fait, si on veut avoir un mode de développement soutenable, il faut rompre avec une logique de consommation-production comme on l'est aujourd'hui. Et évidemment, un avenir zéro carbone, c'est pas simplement pour transposer la société injuste qu'on a aujourd'hui vers une société zéro carbone injuste demain, c'est effectivement un travail pour la justice climatique, donc vers une société plus juste.
Ouais. Alors Clémence, bon, on a compris, il y a un engagement, ce qui n'est pas votre cas, François Gémen. Vous êtes un universitaire, vous êtes un spécialiste des questions de géopolitique et d'environnement, donc vous voyez les choses avec quand même plus de distance.
Et peut-être plus de radicalité. Pour bien comprendre le poids des industries fossiles, il faut se rendre compte que sur les 20 premières entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, c'est-à-dire les entreprises qui valent le plus en bourse, 12 dépendent directement du pétrole, soit qu'elles soient compagnies pétrolières, soit fabricants de voitures, soit industries chimiques. Ça veut donc dire que si l'on veut sortir des fossiles et donc tenir l'engagement de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 2 degrés maximum d'ici la fin du siècle, c'est au moins 12 entreprises sur les 20 plus puissantes dans le monde qui vont avoir de sérieux problèmes oui. par rapport à leur business model et qui vont devoir changer radicalement leur fusil d'épaule. Et c'est là où le terme de transition énergétique ou de transition écologique est profondément trompeur, parce qu'on fait croire que ça va être une sorte de chemin naturel sur lequel tout le monde va s'engager, telle Alice au Pays des Merveilles, et dont tout le monde va sortir gagnant. Et c'est un terme qui, à mon avis, méconnaît tout à fait les ruptures, les cassures profondes qu'il va falloir faire, y compris par rapport à ces entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même l'urgence. Nous avons globalement 20 ans pour agir. Ce qui veut dire, mais même sans doute encore un peu moins, ce qui veut dire que même si on peut dire il faut la lutte contre le changement climatique est incompatible avec le capitalisme, et je suis d'accord avec cela, le problème c'est comment est-ce qu'on fait sur la durée entre maintenant et les 15 ou 20 prochaines années. Et le problème, je crois, de plein d'entreprises, et pas seulement les compagnies pétrolières, c'est qu'elles sont aujourd'hui gouvernées par leurs actionnaires, plutôt par leur patron. Alors ça peut paraître bizarre de dire à la fête de l'UMA, il faut donner plus de pouvoir au patron et moins aux actionnaires, mais le problème véritable, c'est que les actionnaires vont vouloir du rendement sur le court terme et que la lutte contre le changement climatique passe par des objectifs de long terme. Et autant un patron d'entreprise peut comprendre une logique de long terme et peut souhaiter la pérennité de son entreprise, autant l'actionnaire n'en a rien à faire. Dès que ça va mal, il va revendre ses actions. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans le monde, les industries fossiles, les énergies fossiles sont encore financées 10 fois plus que les énergies renouvelables, et en France le rapport est de 1 à 7, donc 7 fois plus d'argent public et privé pour les énergies fossiles que pour les énergies renouvelables. Et donc si on veut à un moment donné que les énergies renouvelables deviennent davantage compétitives par rapport aux énergies fossiles, il faut une politique massive de subventions publiques comme c'était le cas pour le nucléaire dans les années 50 et 60.
Mais on n'en prend pas du tout le chemin, monsieur.
Ah, on n'en prend pas du tout le chemin.
Pas du tout.
Et chaque année, nous éloigne même du chemin qu'on devrait prendre, oui.
Plus étroitement, la politique française, je reviens à Nicolas Hulot, je reviens à ce gouvernement, vous l'analysez comment ?
Je dirais qu'il y a un très grand décalage entre les intentions affichées et les actions posées. Il y a ça sur le climat, il y a ça de façon peut-être encore plus visible sur la question des migrations. Et je dirais que c'est un problème assez général. Et je pense que ce problème général vient du fait qu'on ne considère pas encore véritablement la lutte contre le changement climatique comme un projet politique et comme une matrice de choix collectifs. Et donc, le problème, c'est qu'on va dire aux gens, voilà ce que vous devez faire pour lutter contre le changement climatique. Il faut davantage utiliser le transport en commun. Il faut davantage utiliser les énergies renouvelables. Il faut acheter des produits, produits en circuit court, etc. Tout cela est évidemment utile et important, mais ça ne suffit pas s'il n'y a pas des choix collectifs fondamentaux qui sont posés. Et trop souvent, on va parler aux gens de la lutte contre le changement climatique comme à des consommateurs, en leur demandant de modifier leur choix de consommation, pas suffisamment comme à des citoyens, en leur demandant de modifier leur choix politique. Et il faut bien comprendre que l'essentiel des émissions mondiales de gaz à effet de serre, elles dépendent de choix collectifs, bien davantage que de choix individuels. Et donc, quelque part, c'est une sorte de victoire du néolibéralisme que de présenter la lutte contre le changement climatique comme un choix de consommateur, alors que c'est avant tout un choix de citoyen.
C'est ça, c'est-à-dire que par rapport à ce sujet, vous êtes applaudi, mais on est à la fête de l'UMA. On a dit que le capitalisme c'était mal, hop, applaudis.
Alors que j'ai dit qu'il fallait donner plus de pouvoir aux patrons.
Oui, mais les patrons d'avant,
des capitaines d'industrie, comme on les appelait à l'époque.
Oui. Clément, vous êtes d'accord ?
Mais je suis absolument d'accord, parce qu'on dépolitise complètement la question en nous... Par exemple, l'éducation, quand moi j'étais à l'école primaire, on était déjà totalement conscient du dérèglement climatique, et on nous apprenait que le recyclage était crucial, fermer l'eau du robinet quand on se lave les dents, etc. Alors oui, bien évidemment, ce changement de comportement est essentiel et doit être intégré comme un changement de culture. Mais c'est pas comme ça qu'on peut régler vraiment la question de la crise climatique et de la crise environnementale. C'est évidemment par des choix politiques. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui me parle.
Ouais. Est-ce qu'on voit des effets de ce réchauffement déjà en France ? Je me suis laissé dire qu'en Camargue, déjà, on voit des terres se... rétrécir, en somme.
Bah, est-ce que vous allez souvent à la campagne ?
Ça m'arrive quelquefois.
Est-ce que vous parlez aux gens qui sont autour de vous à la campagne ?
Ça m'arrive quelquefois, je suis reporter, je suis journaliste un petit peu, ça m'arrive de parler avec des gens, oui.
Non, parce que moi, ça m'arrive rarement, malheureusement, je suis parisienne, mais quand je vais à la campagne, je sais que n'importe où, enfin à la campagne ou dans des petite ville avec un peu de nature autour, en tout cas, on va dire oui, mais là je remarque qu'il y a des insectes qui étaient là avant, qui n'y étaient pas, il y a les cigales qui vont venir plus avant, j'ai planté des arbres, ils sont pas, ça fait un an, ils n'ont pas pu commencer à pousser parce qu'il y a des dérèglements. Donc ça, par exemple, sur les arbres, c'est quelque chose dont on m'a parlé en Bourgogne. Donc je pense que n'importe qui est un peu en contact avec la terre aujourd'hui peut se rendre compte de ces dérèglements déjà.
Il y a certaines professions dont la production dépend très profondément d'une certaine sensibilité climatique, comme les vignerons ou les ostréiculteurs, par exemple, qui en voient directement les effets. Il y a aujourd'hui des vignerons qui achètent des terres plus au nord parce qu'ils savent que pour produire un vin qui aura les mêmes qualités, ils vont devoir le produire demain plus au nord.
En France ?
En France, aujourd'hui, bien sûr.
Bientôt des vignes en Belgique ?
Certainement.
Oui, bah c'est bien.
Certainement, il y en a déjà.
Vous en avez déjà, c'est
vrai ? Il y a déjà quelques vignes en Belgique.
Ce que je vous disais pour la Camargue, c'est rétrécissement de la terre, c'est un fantasme ou une vérité ?
Non, c'est pas un fantasme. Ou alors il y a aussi le trait côtier qui revient à l'intérieur.
Le trait côtier ?
C'est-à-dire la ligne de démarcation entre la terre et la mer qui recule à l'intérieur des terres. Et c'est dommage qu'on soit en radio, sinon je vous aurais montré des photos.
Alors c'est jamais
satellites.
Dommage d'être en radio.
C'est vrai. Oui. Mais j'aurais pu vous montrer des photos satellites, effectivement, qui montrent la vitesse à laquelle ce trait côtier recule en certains endroits du monde. C'est assez stupéfiant. Et on le voit toujours comme un phénomène très lent, qui va prendre beaucoup de temps, qui va aller loin dans le futur, alors que c'est déjà une réalité présente aujourd'hui.
Si on pense à la couverture médiatique du cyclone et des ouragans dans les Antilles, Irma et autres à Saint-Martin et à Saint-Barth, on a eu énormément de reportages tout à fait bouleversants avec des gens dans la gêne se plaignant, etc. Ce qui est tout à fait normal. Il est tout à fait normal de faire ce genre de reportage et avec des indications. Le voyage de Macron a été extrêmement important. On a appris que Macron avait fait un truc incroyable, c'est de dormir dans un lit de camp. Je sais pas si c'est un exploit assez formidable, mais il y a un débat là-dessus. Non, il n'a pas dormi dans un lit de camp. S'il a dormi dans un lit de camp, etc. Pendant ce temps-là, on n'a pas parlé de ce dont vous parlez. On n'a pas parlé de ce dont on parle.
On a été dans une logique un peu immédiate de réaction, d'organisation des secours. Et c'est normal, on ne peut pas en faire rêve.
Oui, mais sauf qu'on s'arrête là. Sauf qu'on s'arrête là.
Il
ne
faut
chaque
pas
fois,
s'arrêter là.
On s'arrête là ou on va sur des émissions spécialisées qui s'effilochent encore une fois. Avec cette idée que finalement, oui, mais...
Chaque catastrophe est considérée indépendamment des autres. Il faut bien réaliser qu'en même temps qu'il y avait cette vague d'ouragans sur l'Atlantique Nord, il y avait 42 millions de personnes qui étaient touchées par des inondations de mousson catastrophiques en Asie du Sud, en Inde, au Bangladesh et au Népal.
Et aussi
il y avait le Nigeria qui était sous l'eau et qui a maintenant la saison des typhons qui va commencer en Asie du Sud et du Sud-Est. Et que donc, si on relie ces catastrophes les unes aux autres, on se rend bien compte qu'il y a un dérèglement massif qui est à l'œuvre.
Mais même, excusez-moi de vous entendre, mais
oui.
Sur la, par exemple, le traitement médiatique sur l'ouragan Irma, on voit qu'il y a eu énormément d'articles sur justement les pillages, entre guillemets, les pillages. Alors que les gens allaient effectivement chercher des réserves d'eau, enfin bon, c'était pas essentiel. Là, et on parlait, on dit il faut envoyer l'armée, donc il y avait une gestion très militarisée de la crise plutôt que de parler de la sécurité.
Oui. Ok, alors concrètement, vous nous invitez à. Alors je suis sûr que Clémence va nous inviter à rejoindre la campagne pour 350.org. C'est ça ?
Mais oui, absolument. Mais nous, la façon dont fonctionne notre mouvement, c'est. Disons que ça marche à travers deux stratégies, à la fois la non-coopération avec l'industrie fossile et de la résistance plus directe aux projets d'infrastructure. Et évidemment, après, on soutient par exemple le mouvement Alternatiba qui développe les alternatives. Et d'ailleurs, dès demain, il y a la fête des possibles où il y a. Alors, c'est partout en France. Il y a un site qui s'appelle Fête des possibles, tout simplement. et où il y a beaucoup d'événements, enfin un nombre incalculable d'événements qui sont proposés par plein d'organisations qui travaillent justement sur l'avenir de demain. Et pour ce qui est de notre organisation, bah, évidemment il y a ce principe de non-coopération, mais alors il y a aussi la loi Hulot là, qui arrive très rapidement au Parlement, et vous disiez qu'il y a un décalage entre les ambitions affichées et le contenu. Alors la loi a été dévoilée il y a une semaine. Et en effet, on peut voir qu'entre le titre, il s'agit de sortir de l'exploitation et de la recherche des hydrocarbures non conventionnels et conventionnels en France, donc ce qui est nécessaire, ambitieux et souhaitable. Et en revanche, quand on regarde le texte de loi, on voit qu'il y a un certain nombre de reculs. Il faut savoir que la production d'hydrocarbures en France, c'est 1% de notre consommation d'énergie. Donc c'est vraiment... c'est symbolique, mais les symboles ont de l'importance. Si on ne réussit pas à faire ça, donc à mener à bien cette sortie des énergies fossiles en France, qu'est-ce qu'on dira en France sur la scène internationale? Donc là, on va faire campagne, justement, et je vous invite à suivre 350.org, parce qu'on va faire des mobilisations citoyennes pour s'assurer que nos députés, justement, amendent le texte dans le bon sens. Donc on a commencé les discussions et on va avoir besoin de mobilisation. Donc je regarde tous les gens qui sont ici autour de nous, voilà. Et après, il y a beaucoup de groupes qui demandent à être formés, beaucoup de partenariats Total et d'institutions qui investissent encore dans l'industrie fossile. Donc il y a évidemment beaucoup de travail à faire pour que l'argent aille aux solutions et non aux problèmes.
François Jemaine, Emmanuel Macron est en train de nous écouter. Là, il écoute là-bas si j'y suis. Il adore ce site, il adore cette émission, surtout en direct depuis la fête de l'humanité. Il vient de nous envoyer un message, demander à François Jemaine de venir me voir et de me proposer la solution. Donc vous allez avoir rendez-vous
lundi 9h.
On va, voilà. Alors, lundi à 9h, vous serez reçu par M. Macron. Que lui direz-vous?
Non, mais en fait, il m'a déjà reçu.
C'est vrai?
Il faut lui...
Ah bon?
Lorsqu'il a dénoncé la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, il a effectivement reçu des représentants de la société civile, dont je crois des représentants de 350.org, et des représentants des chercheurs, en leur demandant qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Et ce que je lui ai dit, et ce que je lui dirai encore demain, si je le voyais, c'est qu'il faut arrêter de voir la question climatique comme une question d'environnement. C'est une question profondément politique. C'est une question qui touche aux migrations, à la santé publique, à notre sécurité collective, à tous, au terrorisme aussi. C'est une question qui fondamentalement nous pose la question de notre capacité à agir au-delà de nos frontières, que ces frontières soient géographiques ou générationnelles. Et donc finalement, c'est une question qui nous rapporte à nous-mêmes dans un monde qui est à la fois de plus en plus globalisé, qui demande des solutions de plus en plus globales, mais qui est aussi de plus en plus morcelé. On parlait du mur entre l'Inde et le Bangladesh tout à l'heure.
Voilà, et il vous a dit très bien, merci, je vous remercie. Et je vous souhaite un bon retour.
Il a dit, on fait une deuxième réunion bientôt, mais il n'y a jamais eu de deuxième réunion.
Merci à tous les deux, en tout cas, François
Jemaine
et Clémence Dubois, pour les applaudir.
Merci à vous.
Là-bas.org.